France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Ils nous posent des tonnes de questions dans leur spectacle, à commencer par « Qui sommes ?» Qui sommes-nous en catalan? Le titre de leur nouveau spectacle. Camille de Courtier, Blai Mateu Trias, fondateur de la compagnie Barreau d'Evel, seront mes invités. Ce sera à partir de 13h. Mais d'abord, place au plateau critique du jour au menu mercredi oblige du cinéma, avec Un parfait inconnu de James Mangold et La pivoleuse de Robert Guédiguian. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les midis de culture et bienvenue à vous, critique. Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large le samedi de 14 à 15h sur France Culture.
Bonjour.
Et Guillaume Aurignac, cinéaste et critique de cinéma.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Alors ça y est, le biopic sur Dylan arrive sur les écrans, Un parfait inconnu avec Timothée Chalamet dans le rôle titre. Il est signé James Mangold qui s'était frotté déjà à l'exercice. C'était en 2005 avec Walk the Line et Joaquin Phoenix dans le rôle de Johnny Cash. Sinon, James Mangold a aussi réalisé le dernier Indiana Jones. Dans ce film, il s'attache à un moment bien particulier de la vie de Bob Dylan, 1961-1965, donc de son arrivée à New York, à Greenwich Village, alors qu'il est encore considéré comme un bouseux qui joue plutôt mal de la folk, au festival de Newport où, attendu comme le Messie, il sidère le public en passant à la guitare électrique. On commence par un avis rapide, Guillaume Rignac.
C'est un film assez réussi, qui tient beaucoup à la modestie, on va dire, de ses intentions, parce que ça magnifie à la fois une sorte d'artisanat hollywoodien et en même temps l'habileté de son réalisateur, James Mangold.
Antoine Guillot ?
Je dirais que c'est un film qui ne ment pas sur son titre, puisqu'on n'en sait guère plus sur Bob Dylan après l'avoir vu, qui invente finalement une nouvelle forme de biopic musical qu'on pourrait appeler le copic, qui est après le biographique picture, c'est le cover picture.
Alors, Guillaume Aurignac, vous parliez de modestie dans les intentions de ce film.
Oui, je dois parler d'un plaisir de spectateur, c'est-à-dire que quand on aime Dylan et quand on est un peu un Dylanologue, il y a un vrai plaisir à voir toute cette atmosphère du Greenwich Village des années 60 reconstituée avec tous les personnages qu'on connaît d'un seul coup apparaître et vivre sous nos yeux. Mais ce plaisir-là dépasse un peu le plaisir personnel. Je trouve qu'en fait, il sert quelque chose de très précis dans le film, c'est à éviter deux choses trappes. Le premier piège qu'évite James Mangold, c'est le piège du biopic. Le biopic, c'est vraiment le genre dans lequel Hollywood aujourd'hui se réfugie pour mettre tous ses films à dramaturgie un peu pour un public adulte, parce que Hollywood est emporté par cette vague de films de super-héros qui décline à peu près tous les genres hollywoodiens depuis le début de son histoire. Et le biopic, ça lui permet de dire, voilà, on redevient une usine à fabriquer des films pour un public adulte, mais en utilisant des mythes déjà constitués, donc des pop stars ou des héros de cinéma déjà connus. Le problème, c'est que le biopic est lui-même devenu une formule très répétitive. Et cette formule repose sur quoi ? Sur l'idée que derrière l'image, derrière le poster, derrière l'icône, il y a un petit secret freudien à aller trouver et qu'on va aller chercher, traquer, et qui va expliquer à la fois le talent et en même temps les problèmes psychologiques de son personnage. Et très habilement, je trouve que James Mangold ne va pas du tout à cet endroit-là. Il resserre très vite son récit sur une période à la fois très connue de Dylan et en même temps qui est un peu nébuleuse. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Elle est très connue parce qu'on sait qu'elle participe de la mythologie de Dylan le jour où il a abandonné la musique folk et qu'il a électrifié sa musique et qu'il a un peu perdu son premier public qui voyait en lui une sorte de prophète protestataire de la protest song et qui d'un seul coup est devenu une icône rock planétaire. Donc c'est un mythe qui est très connu et en même temps qu'on ne connaît pas dans les détails. Et là, tous les détails nous sont restitués. Et c'est là où je parlais de l'artisanat hollywoodien. Il y a vraiment un sens du détail et un sens des personnages. Edward Norton, qui joue par exemple Pete Seeger, qui était donc un apôtre de la folk music, il le joue mais excellemment. Vraiment, c'est très très beau à voir. Et donc ça lui permet d'éviter d'aller chercher, d'aller traquer le petit secret freudien. On passe à autre chose. Et pourquoi on passe à autre chose ? C'est parce qu'il évite le deuxième piège. C'est qu'en fait, c'est impossible de faire un film sur Dylan. Pourquoi c'est impossible ? Dylan est quelqu'un qui a à la fois construit lui-même son propre mythe, il a su construire sa mythologie, et en même temps la déconstruire constamment. Il a voulu constamment échapper à une sorte d'identité figée qu'on pouvait lui adresser.
Je vous coupe deux secondes, Guillaume, parce que j'ai oublié de passer un extrait de la bande-annonce. Ah. Pardon. Et après, je vous redonne la parole.
You tramped all the way from Minnesota.
Why is that?
I wanted to catch a spark.
If you're traveling in the North Country Fair.
They say no one wants to hear what a kid wrote last month.
Well, I like your songs.
Where the winds hit heavy on the borderline.
Qui a écrit ça?
C'est lui.
Remember me.
Et si on applaudissait John Baez, les gars? Elle est jolie. Elle chante joliment.
Peut-être un peu trop joliment.
Tes chansons, c'est comme des peintures à l'huile dans un cabinet dentaire.
Tu peux être un vrai petit con, Bob.
If you go with snowflake storm, when the river's freezing, summer ends.
Si tu veux captiver l'attention quand t'es sur scène, il faut être excentrique. Tu peux être magnifique ou très moche, mais tu peux pas être banal.
Keep her from the howling winds.
Il sort quand ton album ?
Bientôt. Il y a 200 personnes dans cette pièce et chacune d'elles veut que je sois quelqu'un d'autre. Faut juste qu'ils me laissent être.
Être quoi ?
Tout ce qu'ils veulent que je sois pas.
Voilà, un parfait inconnu de James Mangold. Je vous redonne la parole.
Oui, alors justement, les extraits nous ont permis d'écouter la musique de The Girl from the North Country, qui est vraiment très très belle. C'était donc très agréable. Ah. Et aussi qui parlait du masque, justement, Dylan qui ne veut pas être ce qu'on attend de lui, et qui veut être toutes les choses différentes, toutes les identités différentes de ça. Vraiment, et je crois que James Mangold a parfaitement conscience de ça. C'est quelqu'un qui connaît bien son Dylan, visiblement. Il a parfaitement conscience que Dylan a emprunté beaucoup de masques et que c'est impossible donc d'aller retirer les masques de Dylan. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va filmer, en fait, l'ensemble, la constellation de regards autour de Dylan. C'est pour ça qu'il filme très bien l'atmosphère qui accueille Dylan et qu'il le voit surgir comme une sorte de prophète de la nouvelle musique pop de cette époque-là. Et en s'accordant, en restant fixé sur cette constellation, ce tressage de regard autour de lui, je crois qu'il réalise, il réussit son film. Il ne permet pas d'aller au-delà du masque. D'ailleurs, il y a quelque chose dans le film qui est très précis, c'est qu'à un moment, il y a un seul carton dans le film qui marque l'année 1965, et c'est l'année où tout bascule. Et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il refuse d'aller derrière ce carton-là. Il refuse de montrer exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a fait Dylan pour se transformer en icône rock ? Il refuse, il sait bien que ça n'est pas possible, et du coup, il va regarder tous ces regards qui voient surgir ce génie, et en fait, ces regards vont permettre à nous, spectateurs, d'être portés par eux, et de comprendre enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Dylan, à quel point il a été immense dans son époque.
Antoine Guillaume, est-ce que c'est une réussite à vos yeux ?
Je ne sais pas si c'est une réussite, en tout cas c'est un film cohérent, effectivement, parce que tout ce que dit Guillaume Aurignac est vrai, mais résultat, ça donne un film qui n'est que de pure surface. C'est-à-dire que refusant, et c'est on peut lui en savoir gré, d'aller dans les travers psychanalysants ou psychologisants du biopic, il s'attache à l'icône uniquement. Il célèbre l'icône en permanence, et effectivement, j'ai été très frappé, moi aussi, par ces regards en permanence qu'il y a sur lui. C'est un film presque théorique sur le chant contre chant, et d'ailleurs Mangold revendique d'avoir renoué avec un classicisme du cinéma hollywoodien qui est vraiment la figure du chant contre chant. Donc Dylan apparaît dès le début comme une sorte de pur génie. Et c'est vraiment la figure du génie qui intéresse Mangold, une espèce de flux rimbaldien comme ça, qui dès le premier plan, il est à l'arrière de ce truck qui l'amène à New York, et il est déjà, il écrit quoi, et ça surgit, et dès qu'il va inventer une chanson au petit déjeuner par exemple chez les Seeger, on a tout de suite ce contre-champ de regard, mais en pamoison total chaque fois qu'il ouvre la bouche, quoi. Et ça va se perpétuer comme ça au fur et à mesure du film, avec des nuances dedans. On est plus ou moins ému, on est plus ou moins fasciné, etc. Mais ça veut mettre comme en abîme le regard du spectateur. Mais ça nous somme un peu d'admirer ce qu'on voit, ce qui me semble un peu gênant. Ça devient presque ridicule, quoi. Ces regards qui se pâment par moment. Et effectivement, quand je disais que c'était de la pure surface et que ça reprend les passages obligés de la mythologie dylanienne, on saura jamais effectivement qui est Zimmerman derrière Dylan, mais après tout, on s'en fout, hein, ben pourquoi pas. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est recréer l'icône, c'est recréer la couverture de tel album de Free Willin, par exemple, montrer dans quelles conditions on a fabriqué cette image. Mais une fois qu'on voit ça, on continue à ne voir que l'image. Et il y a une sorte de redondance entre la coulitude de Dylan et celle de Chalamet par-dessus, qui va, voilà, il reprend les chansons, c'est formidable l'interprétation qu'il fait. Oui et non, c'est-à-dire qu'il se contente d'incarner une image qui elle-même n'incarne rien. C'est assez troublant. Avec cette façon de faire surgir les musiques, on attend tous les tubes et on les a les uns après les autres. Donc on se dit, ah, c'est formidable, ça apparaît. Alors, on va filmer les gens qui reçoivent ça pour la première fois, mais on filme aussi le plaisir qu'a le spectateur à se dire « Ah, c'est bon, celle-là, il l'a faite, celle-là aussi, et celle-là encore », avec cette façon de nous faire croire qu'on va mettre les chansons en entier, ce qui aurait été un beau geste, mais en fait, il vous met le début, il vous met la fin. Mmh. Donc, c'est une sorte de Reader's Digest, en fait, de la geste dylanienne, le tout dans une ambiance qui est quand même très disneyienne, c'est-à-dire que l'arrivée à Greenwich Village est à mourir de rire. C'est-à-dire qu'on sent tous les figurants derrière qui sont comme ceux qui endossent des personnages de dessins animés dans les parcs d'attractions, qui sont là pour donner l'ambiance qu'on s'imagine de Greenwich Village. Il y a toujours l'Indien dans le coin avec son petit tambour qui va revenir régulièrement comme presque un gag. Et c'est pas pour rien que le film est produit par une filiale de Walt Disney. Il y a quand même ce sentiment qu'on va au parc d'attractions pour voir une jolie reconstitution qui nous flatte un peu dans le sens du poil, qu'on aime Dylan ou pas, puisque c'est majoritairement ces tubes qui m'aident, donc forcément ça vous parle. Donc c'est assez plaisant à regarder, mais comme quand vous achetez un disque d'une émission de télécrochet qui reprend des standards et des passages obligés un peu de la musique contemporaine. Donc c'est un film finalement bien ouvragé, mais d'une innocuité totale.
Guillaume Aurignac, à la surface.
Alors, c'est un film de surface, effectivement, mais je trouve que ça fait justement sa qualité. Alors, c'est là où je serais en désaccord avec Antoine. Et pourquoi ça fait sa qualité? Parce que je pense qu'il y a une impossibilité constitutive de sortir d'Hollywood avec un film qui en retirerait le masque de Dylan. Dylan a suffisamment mis de masque lui-même et finalement, il a été le seul à vouloir se filmer. Alors, on pourrait parler du film de Todd Haynes, I'm Not There, qui a tenté ça. Mais qu'est-ce que c'est le film de Todd Haynes? Ça devient un film conceptuel
et qui plusieurs acteurs incarnent
Dylan, ou les images fantasmatiques de Dylan qu'il a lui-même fantasmé. Et en fait, c'est un film qui tournait en boucle sur lui-même, qui était fermé sur lui-même et qui ne communiquait pas ce qu'avait été le plaisir de la découverte de Dylan. Moi, je trouve que la grande réussite quand même du film de Mangold, mais c'était effectivement une réussite de surface, c'est une réussite de ce que peut permettre Hollywood aujourd'hui. C'est de redonner ce qu'a été le surgissement de ce jeune homme quand il avait 19 ans quand il débarque à New York et à 24 ans il devient une star. C'est allé très très vite pour lui, de redonner le surgissement de ce qu'a été pour l'époque l'apparition de ce jeune homme et de le redonner effectivement à travers le regard un peu sidéré, une forme de sidération des gens qui l'ont entouré, mais qui a été réel. Les gens ont été sidérés par l'apparition de Dylan dans la scène folk new-yorkaise.
Et sur la performance de Timothée Chalamet?
Ben c'est très joli. Non mais c'est charmant.
Il est très joli.
C'est charmant. Il est très joli. Il est formidable sur sa moto. Il est formidable dans les vêtements de Dylan. Non, il y a un vrai plaisir à ça. Mais c'est vrai que vous mentionniez le film de Todd Haynes qui délirait son Dylan d'une certaine façon. Mais c'est aussi ce qu'on attend d'une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la reproduction, au-delà de dire oui, c'est une évidence, les gens ont été fascinés, donc on montre la fascination, mais qu'est-ce qu'on raconte au-delà de ça? Peut-être, alors évidemment, ça aurait été compliqué à faire avec une filiale de Disney ou même à Hollywood, mais peut-être qu'il aurait fallu faire un film uniquement sur ces regards-là, c'est-à-dire presque ne pas montrer Dylan et ne montrer que les spectateurs ou ne raconter que la vie du Suze Rotolo, alors qu'il est renommé en Sylvie Rousseau, c'est-à-dire sa première petite copine à New York, ou alors raconter comment John Baez a reçu Dylan, qu'il a ringardisé d'un coup, on entendait là dans la bande-annonce les moments très cruels qu'il peut y avoir sur la joliesse de John Baez, mais finalement Dylan a la même joliesse dans le film, c'est-à-dire que on nous montre des gens fascinés, on ne comprend jamais vraiment pourquoi ils le sont, sauf de cette évidence, bah oui, Dylan is Dylan, et il n'y a plus rien à dire, quoi.
Donc c'était Imparfait Inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet. Antoine Guillot, c'est l'heure de votre coup de cœur et c'est un premier long métrage d'un réalisateur belge.
Oui, d'un réalisateur belge qui s'appelle Leonardo Van Dyl. Le film s'appelle Julie se tait. Et là encore, ça ne ment pas sur son titre puisque c'est l'histoire d'une joueuse de tennis dans un club assez performant en Belgique où il y a eu une histoire avant. Il y a eu une histoire d'entraîneur évincé suite au suicide d'une des jeunes joueuses et va être mis en place un dispositif où tout le monde est incité à parler. Et alors tout le monde va essayer de parler pour raconter ce qui s'est passé, sauf cette fameuse Julie qui, elle, ne veut pas parler. Ou en tout cas, ne parle pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Eh bien, peut-être parce qu'elle a autre chose à faire et notamment à s'entraîner pour ses matchs ou peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées à dire et que la fameuse libération de la parole ne rend pas forcément la parole aussi facile. Et c'est un film qui prend, là encore, formellement tout à fait cohérent avec ce qu'il raconte, puisque c'est un film sur le plan fixe et le hors-champ. Ça commence par un long plan fixe où on la voit s'entraîner et mimer des gestes sans raquette et sans balle, et puis on ne sait pas ce qui se passe dehors, et sans arrêt, ça va jouer là-dessus. On en est presque frustré, on dit « mais vas-y, dis quelque chose, on voudrait savoir ce qui s'est passé ». Or, ça tient jusqu'au bout, juste avant qu'elle parle, ce parti pris formel. C'est porté par une jeune actrice, là encore, qu'on découvre, qui s'appelle Tessa van den Broek, qui est tout à fait formidable. Alors, c'est un premier geste d'une grande maîtrise formelle, mais comme c'est sur la maîtrise de son corps, là encore, parfaitement cohérent. Donc, cinéaste à suivre, Leonardo van Dyl pour Julie se tait.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
La pie voleuse, c'est le titre du nouveau Guédiguian. Celle de Rossini squatte la bande-son du film, mais celle de Guédiguian, c'est Ariane Ascaride. Elle est Maria, assistante auprès de personnes âgées ou dépendantes dans son quartier de l'Estac, à Marseille évidemment. Un boulot qui ne lui permet pas de vivre bien, d'autant que son mari, lui, perd beaucoup aux cartes. Et puis, il y a son petit-fils, jeune musicien doué. Pour lui louer un piano et lui payer des cours, elle va prendre, subtiliser des chèques chez un de ses bénéficiaires. On retrouve toute la bande habituelle, Gérard Mélan, Jean-Pierre Darroussin et même Grégoire le Prince Ringuet. Et on commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre, Antoine Guillot.
C'est une variation sur thème, vous l'avez dit. On retrouve la bande, on retrouve les décors de l'Estac, on retrouve les problématiques sociales et politiques de Robert Guédiguian. Mais le film déraille à un moment et je pense que c'est ce qui fait tout son sel.
Guillaume Rignac.
Oui, là pour moi c'est un film à l'émotion imparable et qui tient beaucoup à ce qu'il adopte une forme de fable, mais que cette forme de fable n'oublie jamais de regarder la société à la bonne hauteur, c'est-à-dire au niveau matérialiste.
On va écouter tout de suite la bande-annonce de La Pivoleuse.
Votre courrier.
Et les bulots, ils sont où?
Ben ils sont là. Vous pourriez me signer des chèques d'avance, je me suis servi du dernier. J'ai fait toutes les courses.
Merci, ma belle.
Je mets la monnaie dans le compotier. Combien il reste sur le compte?
Il n'y a plus rien.
Tu as recommencé à jouer?
C'est sûr, il va l'avoir, son concours.
Arrête, tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se payer ça.
J'ai appelé son professeur de piano au conservatoire. Il est d'accord pour lui donner des cours particuliers.
Mais tu le payes comment?
J'ai pris du travail en plus.
Oh, tiens.
Bonjour, papa.
Tu veux prendre l'apéritif?
J'ai l'habitude de m'occuper de ses affaires. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui il joue ce piano?
Oui, bien sûr.
Madame Jourdan?
C'est moi.
Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon père loue ce piano pour vous.
T'as recommencé comme avant?
C'est pour le petit.
Qu'est-ce que tu lui donnes, à part le piano?
Je vous demande de pas porter plainte. On remboursera tout à votre père.
Cette femme, faut l'empêcher de nuire. Peut-être qu'elle fait ça chez d'autres vieux.
Tu mets plus les pieds chez Moreau. Fais-toi remplacer, raconte n'importe quoi.
J'aimerais que tu arrêtes de travailler chez les hommes qui sont seuls.
C'est vraiment bête ce que tu dis. Mais ça me touche beaucoup.
Et votre petit-fils, le piano, il progresse?
Oui, oui. J'y prends des cours particuliers à Avenue du Prado.
Il est jeune. Il a le temps.
La pivoleuse de Robert Guédiguian. Antoine Guillot, le déraillement, c'est amusant parce qu'on voit beaucoup de trains d'ailleurs dans ce film.
Ah bah, il y a toujours ce train entre le quartier de l'Estac et la mer, hein. Donc c'est l'horizon effectivement de ce film. Alors oui, quand je dis que le film déraille, c'est que on pourrait croire que c'est encore un énième conte de l'Estac. D'ailleurs, c'est revendiqué comme tel, que ces personnages, on les a tous déjà vus. Je dis les personnages encore plus que les acteurs, parce que une des beautés du cinéma de Guédiguian maintenant, depuis 45 ans qu'il tourne, c'est l'épaisseur temporelle de ces films, et que pour peu qu'on ait suivi sa filmographie depuis le début, on peut se dire que Daroussin, Mélan, Ariane Ascaride, ce sont les mêmes personnages qu'on a vus dans Dernier été ou Kilosa, et que finalement il leur invente un devenir, et d'ailleurs il joue beaucoup de ça. Alors là, il n'y a pas eu, comme dans La Villa, une citation directe par extrait d'un de ses films, mais il y a des photos par exemple ici et là où on les voit jeunes et on se dit bah oui, ça sort de l'époque. Alors, sachant que dans le cinéma de Guédiguian, il y a deux genres de films, hein. Il y a les films où Ariane Ascaride est en couple avec Gérard Mélan, ou où il est en couple avec Daroussin. Parfois, elle est avec les deux. C'est des Marie-Jo et ses deux amours. Là, elle est en couple avec Mélan, mais on sent que Daroussin, voilà. Bon. Ça, c'est déjà le premier plaisir, mais on peut se dire aussi, oui, bon, c'est facile, le cinéma de Guédiguian, il a quelque chose à dire et il nous le dit. Or, il y a un moment dans le film, et je ne vais pas dire lequel, où quelque chose va au-delà, en fait, du discours, au-delà du scénario, et où tout d'un coup, le film bascule parce que le désir va dicter sa loi au personnage. Mmh. Et ça donne une scène qui est très très belle, où Guédiguian, à un moment, arrête le langage et va regarder ses personnages. Et on se rend compte rétrospectivement qu'en fait, il l'a fait à plusieurs moments dans son film. Il a une façon de cadrer ses personnages qui sont un peu comme des portraits. Et régulièrement, il les regarde. Mmh. Il les regarde quoi ? Manger des huîtres, écouter de la musique, simplement vivre, revenant vraiment à quelque chose de basique du cinéma, qui est le plaisir de regarder quelqu'un, quoi. Mmh. Et ça, c'est très, très émouvant. Et quand je dis que le désir les déborde, je recite encore un film précédent de Guédiguian qui s'appelait À l'attaque, où un des personnages disait qu'il n'y avait que deux choses qui comptent dans la vie, la lutte des classes et le sexe. Mais finalement, ce film réussit cette synthèse-là, avec élégance et simplicité, pour citer ce qu'il a écrit sur la partition à la fin du film.
Guillaume Aurignac, ce que dit Antoine est intéressant, puisqu'il parle beaucoup de mise en scène, et c'est un des points de ce film qui est à noter.
C'est un des points de ce film, oui, parce que effectivement, donc Guédiguian revient à sa veine folk, on va dire.
Non électrifié.
Voilà, non électrifié, donc un retour au petit territoire marseillais de l'Estac, un retour à une formule de film à petit budget avec ses personnages, sa petite troupe de personnages habituels, retour aussi à l'importance de la parole, mais ce qui m'a frappé en voyant ce film-là, c'est à quel point la mise en scène était devenue importante chez lui. À quel point il se permettait effectivement des moments de stase qui ne servent pas le récit, mais qui servent à recréer son monde, en fait, à recréer son univers. Et ça, je crois que c'est possible parce que le film opère au croisement de deux formes différentes qu'on a tendance à ne pas distinguer, mais qui en fait sont différentes. C'est à la fois la fable sociale et le conte moral. La fable sociale, ça lui permet, c'est ce qu'on connaît de lui, ça lui permet donc d'investir une sorte de d'univers qui est contraint par tout l'environnement social, économique qui appuie sur ses personnages. On parle beaucoup d'argent dans le film.
Il y a le prix des choses.
Et du prix des choses. Combien ça coûte, combien en dépense, qu'est-ce qui reste à la fin du mois. Il n'oublie jamais ça, évidemment. Et c'est aussi le conte moral, c'est-à-dire les rapports interpersonnels entre ces personnages-là, où d'un seul coup est un peu évacuée la question de l'argent, un peu évacuée la question sociale, et effectivement, on tombe dans la question amoureuse et la question du désir. Et il croise ces deux formes-là, il les croise très habilement, ce qui lui permet à un moment d'arriver à une scène extrêmement audacieuse, je trouve. On est à la limite de la croyance, de la crédulité possible du spectateur sur cette scène-là, mais il s'en sort parfaitement par la mise en scène et aussi parce que il sait très bien que le cinéma est à la fois un art réaliste et un art de convention. Et il va utiliser la convention pour offrir un regard encore plus réaliste sur le monde qu'il est en train de filmer. Et je trouve ça très beau. Et là, notamment, il arrive à un moment à une scène qui est absolument sublime. Et là, je dévoile, c'est pas un spoil, hein. C'est qu'à un moment, il va filmer Gérard Mélan qui accompagne son petit-fils à une leçon de piano, de cours particulier de piano. Gérard Mélan découvre un appartement bourgeois, un intérieur bourgeois. Il s'assit et ce qu'il découvre, c'est une épiphanie. C'est voir son petit-fils jouer du Beethoven. Et la scène est absolument sublime. C'est une pure scène de cinéma où il filme en gros plan le visage de Gérard Mélan.
Il y a un vrai travail sur les générations aussi, là. C'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé dans les précédents films, mais il insiste beaucoup là-dessus.
Oui, parce qu'il y a un renouvellement voilà. De la troupe. Hein. Il y a deux troupes maintenant chez Guédiguian. Il y a la troupe des vieux et la troupe des jeunes. Or, la troupe des jeunes, il l'avait pas mal maltraitée dans un film précédent qui s'appelait Gloria Mundi, qui a des thèmes assez comparables, puisqu'il montrait vraiment comment les classes populaires intégraient la logique dominante pour se livrer à une guerre de tous contre tous et essayer de s'en sortir. Et les jeunes étaient atroces dedans. Et au début, quand on voit le personnage de le prince Ringuet, on se dit, ça y est, il va nous refaire le coup. Quoi, vraiment salauds de jeunes, s'ils sont en train de trahir la révolution, etc. Sauf que justement, par la grâce de cette scène, en fait, tout d'un coup, la logique individuelle et égoïste est transfigurée et la possibilité du bien et de la gratuité arrive. Alors, on pourrait dire que c'est très niais et très con, sauf que réussir à montrer vraiment un acte désintéressé et bon, la bonté au cinéma, c'est quand même pas facile à faire sans que ce soit sulpicien ou gnangnan. Et là, précisément, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a la possibilité d'un autre rapport entre soi, d'un autre rapport aussi entre classes sociales assez proches, finalement, où on n'est pas là pour s'écraser les uns les autres, où quelque chose de commun, en fait, peut naître. Donc c'est un film profondément communiste, mais au sens idéal du terme. Mmh. C'est-à-dire de montrer comment est-ce qu'on peut vivre ensemble au-delà des rapports intéressés, des rapports capitalistes qu'on veut nous faire intégrer à toute force. Donc c'est une belle utopie réalisée, et en plus extrêmement musical, là encore ça fait longtemps que Guédiguian tourne autour de la musique, on sent qu'il voudrait faire une comédie musicale mais c'est trop compliqué et là il y a même une composition musicale du scénario où des motifs souterrains, notamment celui de l'abandon qui est le cœur secret de ce film, qu'est-ce qu'on fait quand on est abandonné, pourquoi est-ce qu'on abandonne, qui est abandonné, et ça remonte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est assez, c'est assez troublant, fait de ce film voilà, quelque chose vraiment de très, très complexe mais avec encore une fois, élégance et simplicité.
Et ça commence effectivement dans un magasin de musique sur du jazz. C'était donc La Pivoleuse de Robert Guédiguian, Antoine Guillot, Guillaume Aurignac. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer aujourd'hui sur ces deux films. Nous avons parlé aussi avant d'Un parfait inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet. Toutes les références sont sur la page des Midi de Culture. Et vous qui nous écoutez, bien maintenant c'est à vous de vous faire une idée.